Yvan Levaille.
2 heures en direct avec l'anarchiste poète ou le poète anard, comme vous voulez, de la chanson, présent exceptionnellement ce soir dans le grand studio Sylvain Flora d'Europe 1. Léo Ferré, bien sûr, son piano, plus notre collection discographique de 30 années de chansons signées Léo Ferré, Léo Ferré, Ferré Aragon, Ferré Rimbaud, Ferré Baudelaire, Ferré Jean-René Cossimon. Présent ses admirateurs, ses amis et aussi Eric Lippmann, Viviane Blassel, Daniel Cohn-Bendit. Avec eux, avec vous, 2 heures durant, nous allons nous promener dans l'univers poétique et politique de Léo Ferré, parler avec lui d'amour et d'anarchie, chanter aussi en sa compagnie la vie, la mort, l'amour et la musique, les femmes, le temps, la solitude et l'argent. Radio Libre ce soir au libertaire Léo Ferré, un homme qui, comme nous, comme vous, s'arrête de temps en temps pour se demander si après tout, ça vaut le coup de vivre sa vie, comme dans la chanson « Comme à Ostende », et puis qui se demande aussi, comme tous ceux d'entre vous qui vont quelquefois au cinéma, si celle qu'il aime a de beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais, Léo Ferré, en direct, au piano du Sylvain Flora d'Europe 1. Léo.
T'as de beaux yeux, tu sais.
T'as de beaux yeux.
S'est suicidé, qui déambule boulevard des Ritals, à Paris, samedi, c'est ouvert, vas-y camarade. Sur l'autoroute, il y a des songes de coureurs en long cours et qui rongent leurs freins malades. C'est ouvert, vas-y camarade.
T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, mais regarde. Regarde.
Quand ils sont verts, j'y vais cueillir la pâquerette. Quand ils sont bleus, j'y plonge au fond de leur marino. Quand ils sont noirs, j'y prends le deuil de ma voisine. Quand ils sont mauves, alors j'y cueille ta violette. T'as de beaux yeux, tu sais, t'as de beaux yeux. Regarde, mais regarde, regarde-les, ces suicidés qui déambulent boulevard des Ritals à Paris samedi. Je les vois au bras d'une géante noire, en cheveux noirs, en voile rouge. Elle passe sur moi, sur ma marge, et sa bouche, et sa chatte, comme un arc-en-ciel me fait minou. La chatte de la mort la nuit ne ronronne jamais, t'as de beaux yeux, t'as de beaux yeux. Regarde, regarde. Quand ils sont verts, j'y vais m'inscrire à l'espérance. Quand ils sont bleus, je me prends pour ton capitaine. Oh, quand ils sont noirs, je t'y plonge et puis t'y ramène. Quand ils sont mauves, alors mon carême commence. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Regarde. Mais regarde. Le carême de la Camargue, ça commence quand tu regardes la chatte de Paris la nuit. Je la vois quand tes yeux sont gris. Elle se fait enverguer par des prolos au ventre triste, qui s'en vont aux urgences, jerqués avec l'URSSAF.
Une petite romance. Petite romancette. Écoute, 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 écoute.
À leur chanter des tas de chansons d'Yésiré et toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté, puis après. À porter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges. Sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de Scott et un jean, fils. Et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, et puis, après. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la crique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps noix pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils ont voté,
Et puis, après, pampan cul, pampan cul. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la télé-urne, ces Vespasiens de l'isoloir et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après. Et dans une France anarchiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
Radio Libre à Léo Ferré, Yvan Levaille.
Oui, Radio Libre à Léo Ferré, en direct du studio Sylvain Foira d'Europe 1. Vous avez entendu deux chansons de Léo Ferré. La première, T'as de beaux yeux, tu sais, qui doit être une chanson des années 70, Léo, non?
Oui, je crois.
Oui.
Elle n'a jamais été enregistrée, t'as souligné.
Eric Lippmann, elle n'a jamais été enregistrée, donc j'espère que vous étiez à vos cassettes et que vous avez déjà pu l'enregistrer. Quant à l'autre, j'ai fait une ânerie ce matin sur Europe en l'annonçant. En annonçant la Radio Libre à Léo Ferré ce matin, j'ai diffusé « Ils ont voté ». Persuadé que c'était une chanson d'après 1968. Et vérification faite, Léo, j'ai vu que cette chanson datait de 1967. Et alors, aujourd'hui, les mémorialistes, eh bien, vous rangent et les historiens ont l'air de considérer que vous faites partie de ceux qui aviez senti, qui aviez prévu mai 68. Et là, ce soir, vous êtes à côté de Daniel Cohn-Bendit.
Et oui, mais vous savez, c'est pas génial de dire que. Ils ont voté, ça aurait pu chanter en 1920. Hein.
Non, mais c'est d'actualité avec les généraux qui ne sont pas contents en ce moment parce qu'il n'y aura pas assez de militaires.
Ah oui, enfin, je me permettrai de dire quelque chose après, si vous permettez. Si
non,
vous
mais dites-le tout de suite.
Hein?
C'est votre radio libre, alors dites-le tout de suite.
Si on coupait la moitié du budget de la défense nationale, il resterait encore pas mal pour nourrir les généraux, pour nourrir les chars et tout ça, puis faire monter peut-être un peu moins d'avions qui dépensent du fioul, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça porte un nom, je vois, pour les avions, du kérosène, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait faire, j'ai parlé avec un copain à moi qui était à la fac de droit à Paris avant la guerre, je lui ai dit, je fais-moi voir, il est prof maintenant, fais-moi voir le budget de la France. Si on coupait la moitié, hein, bon, on peut quoi, on pourrait faire une pension aux jeunes entre 18 et 21 ans, oui. 3 ans, voilà.
Léo Ferré, je vois que vous êtes à côté de Daniel Cohn-Bendit. Et puis je me suis posé la question tout à l'heure, je me suis dit, au fond, vous vous connaissiez, avant qu'on vous invite ici ce soir, Daniel Cohn-Bendit.
Non, c'est jamais...
Tu connaissais Léo ou tu...
Non, moi je l'ai vu que d'en bas. Moi, quand j'étais jeune, j'allais au Gala du Monde Libertaire, un journal d'ailleurs qui existe toujours, pour qui Léo Ferré fait souvent des galas pour que ce journal tienne. Alors j'y allais, puis j'ouvrais les yeux, parce que j'étais très jeune là, à cette époque, et puis personne ne me connaissait.
Alors c'est une rencontre alors ce soir, une véritable rencontre.
Ah, c'est une vraie une, c'est la première.
Une vraie une. Daniel Cohn-Bendit, Léo Ferré, pour la première fois ensemble, l'anarchiste et le spontanéiste, je ne sais pas comment on peut dire pour Cohn-Bendit aujourd'hui.
Ah, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Le libertaire réformiste.
Le libertaire réformiste. Éric Lippmann, le musicologue réformiste et pas réactionnaire.
Oui, tout simplement... Villon, Debussy, Ferré, c'est une lignée, c'est peut-être la seule chose qui soit traditionnelle dans ce qui existe chez Ferré, sa musique et ses paroles, et puis aussi cette manière de faire de la poésie avec les mots des autres, avec ses propres mots. Bref, c'est pas d'aujourd'hui qu'il existe Ferré, hein. Ça fait partie de toute l'histoire de ce qu'on aime bien dans ce pays quand même.
Attention, il est vivant. Surtout, Léo Ferré est avec nous en direct, il est vivant.
Il est vivant depuis le Moyen-Âge.
Viviane Blassel, alors, vous ne dites jamais rien. Hein.
Ben justement, on dit qu'une des plus grandes qualités des femmes, c'est de savoir écouter. Je n'obéis pas toujours à ça, mais ce soir, j'ai bien envie de le faire et d'écouter Léo Ferré.
Alors, j'ai dit qu'on allait se promener dans l'itinéraire poétique et politique de Léo Ferré. Alors les chansons poétiques, il y a les siennes, et puis vous savez qu'il a mis en musique, il a osé déposer de la musique sur les vers de Rimbaud, Baudelaire, Aragon et quelques autres, Jean-René Cossimon. Mais on a aussi beaucoup emprunté à Ferré, on ne le sait pas toujours, et il a fait des chansons pour d'autres, y compris cette chanson qu'il n'a jamais chantée lui, et qui est un petit peu notre petite surprise ce soir. Écoutez ça.
que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson.
J'en demande pardon à Édith Piaf et Léo Ferré. Léo, vous n'avez jamais chanté cette chanson-là?
Non.
Pourquoi? C'était vraiment pour Piaf.
Oui, et puis j'avais fait d'ailleurs en collaboration avec un garçon qui est toujours... qui est un parolier, qui travaille habituellement avec Michel Legrand, qui s'appelle Eddie Marnay.
Eddie Marnay.
On avait fait ça ensemble, on était allé voir Piaf. C'est un drôle de personnage, Piaf, parce qu'un jour, je m'étais mis dans la tête, plus tard, de lui apporter des Baudelaire. Alors, j'arrive, je lui chante, elle m'arrête, elle me dit, ah non, pour moi, Baudelaire, c'est sacré. On ne peut pas être plus con, hein.
Voilà, il dit ça ici comme ça dans le studio Sylvain Faure, hein, je le regarde, et je suis en train de penser que vous avez commencé à la radio quand on regarde un peu. D'abord, tout le monde ne le sait pas, hein. Vous êtes monégasque. Vous êtes né à Monaco.
Et français.
Et je crois que est français. Et votre premier emploi, c'est à Radio Monte Carlo, où vous avez été speaker et balayeur du studio.
Oui, enfin, peut-être j'ai enlevé un peu les trucs par terre, quoi. Ça me gênait, mais on ne me disait pas de balayer, quand même.
Bien. Léo Ferré, on continue la petite promenade. Parmi les gens à qui vous avez prêté des chansons, et nous avons fait, avec Go, notre réalisateur, un petit montage de Ferré qui chante Ferré et puis de ceux qui aussi chantent la même chanson que Ferré. Alors la première, Ferré, Catherine Sauvage, écoutez ça.
Ouais, des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits sapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, des verres en verre, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames sont une raison à son bigame et c'est si bon.
Bon, ça c'est Ferré, Catherine Sauvage, la même.
Les vagabonds se font des scènes, mais sous des ponts, coule la Seine. Pour la romance, à illusion, il y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, frères y pavés, où toute l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regards perdus dans leur ruisseau, tout va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans notre fond, c'est laborieux, mais c'est si bon.
Voilà, c'était évidemment Paris Canaille. Alors, deuxième petite référence, c'est petit florilège. Léo Ferré chantant Aragon, avant Yves Montand qui chante la même chanson d'Aragon, mise en musique par Léo Ferré. Ferré d'abord.
Elle avait la marche légère et de longues jambes de fange. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant.
Voilà, ça c'est l'interprétation de Léo Ferré, chantant la musique de Léo Ferré. Voici maintenant Yves Montand.
On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite qui sans un sou vaguement gris, avec des fleurs pleines les charrettes, son destin dans la paume écrit.
Voilà, je vous demande pas ce que vous préférez. Et on continue le petit tour, hein. Ça, ce sont des chansons des années 50. On veut pas les dater d'ailleurs, 50, 60, peu importe. Voici celle-ci qui est l'une des premières chansons de Léo Ferré. Mets ton habit, scaphandrier. Et ensuite, vous l'entendrez telle que la chante actuellement Salvador sous son chapiteau à Pantin. Léo Ferré d'abord.
Il est descendu, descendu. Et dans les profondeurs du vide, le scaphandrier s'est perdu.
Voilà Léo, vous l'avez reconnu. Henri Salvador maintenant, tel qu'il la chante encore une fois sous son chapiteau ce soir à Pantin. Mets ton habit scaphandrier.
Mets ton habit scaphandrier. Descends dans les yeux de ma blonde. Que vois-tu, bon scaphandrier?
Voilà. Alors, on continue avec une femme. Avec une femme, mais d'abord un homme. D'abord, Léo Ferré chantant un poète, et quel poète, puisqu'il s'agit de Rudebeuf. Que sont mes amis devenus? La voix de Léo d'abord, celle de John Bess ensuite. On me fait des grands signes, on me dit, attendez, on n'y est pas. Regardez Léo, vous voyez, hein, c'est merveilleux la technique. Voilà, mais je vais vous dire pourquoi. Vous allez tout savoir, on a tort de changer d'avis. Je voulais faire passer Léo Ferré et Pia Colombo, chantant chacun Jalousie. Et puis pour gagner un petit peu de temps, j'ai décidé de passer outre. Et bien voilà le résultat. Alors, Léo Ferré et non pas Pia Colombo, Léo Ferré et John Bess. Léo Ferré d'abord, pauvre Rudebeuf.
Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort.
Voilà, John Bess, la même.
Ne convient pas que vous racontiez comment je me suis mise en quelle manière. Ce sont mes amis devenus. Que j'avais de si près ténu et tant aimé.
Léo, 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 vous entendez John Bess? Que sont mes amis devenus? Alors,
et vous savez, parce que cette femme, je la connais pas, mais elle était honnête, en tout cas envers Rudebeuf, parce que à un certain moment, Rudebeuf a écrit au XIIIe siècle, les droites au cul cambisevante, le vent me vient, le vent m'évente. Ça pourrait être écrit aujourd'hui, c'est admirable, quoi. Et alors, il y a une chanteuse, un jour, j'avais un guitariste qui est mort depuis, qui est venu nous voir en me disant, elle n'est pas venue exprès, mais elle m'a dit, tu sais, j'ai enregistré cet après-midi pour telle marque de disque avec elle, elle a chanté Rudebeuf, et elle a dit, et droit au cœur, cambise vente. Alors, écoutez, j'ai pris le téléphone, j'ai envoyé un télégramme. J'ai dit à la femme, voulez-vous prendre le télégramme? Alors j'ai dit, de mon temps, le cœur ne se confondait pas encore avec le cul. Oui. De derrière le monde, Rudebeuf. Et bien la femme du téléphone a refusé de prendre le télégramme. Parce qu'il ne faut pas envoyer de gros mots dans le télégramme. Voilà.
En tout cas, vous dites que John Bess, elle n'a pas hésité de dire et droit au cul, la bise de vente, c'est ça?
Avec l'accent et tout, c'est formidable. C'est honnête, c'était mignon comme tout.
Oui. Alors, on assiste à plusieurs retours. Je ne sais pas, vous n'êtes pas candidat, vous, à l'Académie française. Alors, on va entendre. Vous êtes deux, il fait un signe d'un air méprisant. On n'en parle pas, Léo. Tout de même, vous avez chanté, évidemment, Verlaine, chanson d'automne, et Trenet l'a chanté aussi, mais là, je dois dire que Trenet a mis sa musique sur les vers
de Verlaine,
et vous avez mis aussi votre musique. Alors ça donne ce résultat-là. D'abord Léo Ferré, ensuite Trenet. Léo Ferré.
Les sanglots longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Voilà, ça c'était la version Léo Ferré, musique de Léo Ferré. Et maintenant Charles Trenet.
les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Alors là, petit concours, je sais pas, là on peut apprécier.
Non, c'est très bien, très
c'est bien. Hein.
Ah oui, ouais, bon. Quand même, faut pas charrier. Alors...
petit concours, vous c'est très jazz, hein, c'est très... Eric Lippmann, finalement, alors les différences de rythme là, tous les... le choix d'Eric Lippmann.
Oh, ça c'est épouvantable, on n'est pas à la tribune des critiques de disques à France Musique, là, c'est épouvantable. Je veux dire que ce genre de questions, moi j'aime ce que je suis en train d'entendre, alors j'aime tout là, en ce moment.
Moi, je veux dire quelque chose. Il me semble que, bon, le swing, là, évidemment, ça fait penser à Django Reinhardt, Léo Ferré, mais je sais pas, j'ai l'impression que la musique de Trenet colle un peu mieux que la vôtre. On peut dire ça sans vous...
Sûrement, oui. Moi, je pensais que je me vexais.
Personnellement, je trouve pas.
Eric Lippmann ne trouve
pas.
Non,
moi, je trouve pas.
Alors, on pourrait ouvrir parmi nos auditeurs ou les amis nombreux de Léo Ferré qui sont venus dans ce studio Sylvain Flora, une espèce de petit concours. Il y a un mystère, tout de même. Je voudrais savoir qui de Trenet ou de Ferré... et le plus puriste et le plus près des textes des deux. Il y en a un qui dit « Les sanglots longs des violons blessent mon cœur » et l'autre dit « Berce mon cœur ».
Blesse. Blesse.
C'est pas sûr.
C'est pas sûr, moi.
Pas sûr.
Alors écoutez, Viviane, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là?
Il faudrait demander à Radio Londres, puisque vous savez que c'était le verre qui a été utilisé pour annoncer le débarquement.
Non, ce qu'on peut dire, c'est que... c'est que Léo Ferré, Léo, un mot, quand vous mettez de la musique sur un texte, vous êtes vraiment très, 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 très soigneux.
Oui, mais il m'arrive de me tromper sans me l'apercevoir. Dans la chanson des amants, il y a des cieux. Et moi, je dis des ciels dans le disque.
Oui, bon.
Et ça, je me suis pas rendu compte.
Léo Ferré.
Personne ne me l'a dit d'ailleurs quand j'enregistrais.
Léo Ferré, c'est votre radio libre, mais vous nous laissez librement faire un petit peu de publicité et puis présenter le flash d'information de 21h. Et tout de suite après, vous passez au piano et vous vous préparez, vous allez nous chanter Vitrine. Et en direct. Viviane Blassel et naturellement Léo Ferré ici en direct du studio Sylvain Floira d'Europe 1. On continue la promenade dans le... Ferré politique et poétique, et on commence, si vous voulez, par le Ferré politique. Tout de suite, en direct, au piano, Léo Ferré voulait nous chanter Vitrine.
Des cadillacs, des ombrelles, de l'albuplast et des bretelles, de faux dollars, de vrais bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifrices, des chiens nourris qui parlent anglais, et les putains à l'exercice avec leurs yeux qui font des frais, des faux tableaux qui font la gueule, et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler, des filles en fleurs, des fleurs nouvelles, des illustrés à bonnes d'enfants, des enfants qui vont les belles, devant des mecs bourrés d'argent. De l'avenue font un vacarme dans les cœurs, à faire se lever le bonheur, des fois qui pousserait dans les rues. Les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à les mystiches, les vedettes à nez nouveau, parole de Ferré Léo. Les brigands courts que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coupes-files et les soutiens-gorge avec la notice d'emploi, des chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon, bailleux cornet, c'est tout Mozart dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une et qui se caille au mot croisé. François, le monde et la fortune devant les mecs qu'on va bouffer. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours, à faire se lever l'amour. Des fois, qu'on le vendrait au surplus Et chez Mammouth, Chalon-sur-Saône, janvier 1978, une fille de 15 ans arrive chez Mammouth. Avec ses deux sœurs plus jeunes qu'elle, elle rentre et elle pique un soutien-gorge. Le flic du Mammouth qui l'a vu piquer le soutien-gorge lui pique à son tour en lui disant « Je garde tes deux sœurs avec moi, tu vas chercher ton papa à la maison. » Elle n'a pas été chercher son papa à la maison. Elle est allée se noyer. Mammouth qui écrase les prix et les enfants.
Des Pères Noël, grandeur nature, qui ne descendent plus que pour les parents, pendant que les gosses jouent les doublures, en attendant d'avoir 20 ans.
Toupie qui tourne au quart de tour, bonbon fondant, bonheur du jour, et ses mômes qu'en ont plein les bras, lécher la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle. Des soutiens-gorge, un équilibre pour amuser les tout-petits. À l'intérieur, la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Des merveilles qu'on ne pas toucher devant des mecs qui peuvent rentrer. Entrez donc, mon petit. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois, qu'ils en auraient trop vu. Jambon d'York, garantie Villette, des alcools avec étiquette, crème à raser, les plus coriaces, où l'on m'étend le poil, cela. La gaine qui fond sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, l'escapin qui use le pavé, les parfums qui sentent le péché, des falbalas pour la comtesse, des bandes en soie pour pas que ça blesse. Du chinchilla, de la toile crue, il faut vêtir ceux qui sont nus, des poulots verts si vrais qu'ils bêlent, des vins si vieux qu'ils coulent gaga, des décorations qu'étincelles, devant des mecs qui n'en veulent pas. Les vitrines de l'avenue, c'est tes poches à toi quand tu rêves et que tu fouilles à main perdue des lambeaux de désir qui lèvent.
C'est Radio Libre, Radio Libre, Léo Ferré. C'était, je disais, l'une des chansons politiques de Léo Ferré. Et un peu plus, il l'a chanté tout à fait librement ici, je dois ajouter, en présence d'amis de Léo Ferré venus et qui sont, Léo, des gens qui s'intéressent justement comme vous, mais positivement à la publicité. Et en présence de Daniel Cohn-Bendit, qui lui aussi, au fond, travaille sur un poste commercial et
sans
souci apparent.
Moi, je suis pour la pub. Ça ne me pose aucun problème. Ça, ouais, c'est vraiment...
Vous n'avez pas toujours dit ça, Dani.
Non, je veux dire, c'est embêtant quand il y en a beaucoup, quand on veut faire une émission, on a beaucoup de choses à dire, mais en soi, ce n'est pas mon problème. Vraiment, moi, je suis pour la publicité à toutes les radios libres, qu'on leur donne 4-5 minutes, comme ça, ils pourront vivre, et comme ça, ils feront de bonnes émissions. La concurrence s'amènera le bal, Europe numéro 1 s'améliorera, Radio Luxembourg s'améliorera, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc, allons-y pour la publicité pour tout le monde.
Léo, comme quoi...
Il travaille ça, c'est un savant américain, Et la publicité, lorsqu'elle intervient, quand les gens ne s'attendent pas à ça, soit à la télévision, soit ici, soit par ailleurs, ça surprend les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ça les entame terriblement dans les neurones, vous connaissez. Non, vous rigolez, c'est vrai ce que je dis.
Oui.
Ça vous ennuie que je dis ça.
Non, pas du tout.
Oh, non.
Pas
du tout. Mais je crois que le grand problème, tu l'as dit dans ta chanson, c'est la publicité, c'est une chose, bon, on est pour, on est contre, on va pas en faire un plat, Mais ce que tu as dit là sur la fille Mammouth et les flics et les gens qui piquent, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui piquent, parce que hein, on dit 2 millions de chômeurs, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quoi, et puis c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans les vitrines. Hein. Quand on se balade à Noël comme ça, on dit acheter, 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 et puis quand on n'a pas d'argent, ben, on se dit, je dis pas piquer, 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 mais on se dit, et pourquoi pas moi et pourquoi toujours les autres. C'est un vrai problème.
Je peux dire
social.
Que pour ajouter à son charme, cette petite avec ses deux sœurs était arabe. Et que les parents ont porté plainte, enfin, et ils ont été déboutés. Ça vaut le coup de dire ça, parce que c'est vrai, la vérité, il faut la dire.
C'est un thème, je dois dire, classique, puisque si mes souvenirs sont bons, Prévert l'a abordé hein, dans un poème qui s'appelle, où il dit « Café crime arrosé sang hein. ». Ouais, il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur sur le comptoir d'étain au matin. Alors, bon, Prévert, ça c'est la transition habile, pas pour fuir le débat, je vous signale, mais parce que ça c'était le ferré politique, mais il y a aussi le ferré poétique, et je vous propose, alors Léo, vous pouvez regagner votre place et quitter le piano, vous allez y revenir tout à l'heure, mais comme à Ostende, écoutez, ça c'est une autre facette de Léo, oui, sur des paroles de Jean-René Cossimon. Jean-Roger Cossimon, pardon pour lui.
On voyait les chevaux de la mer qui fonçaient la tête la première et qui fracassaient leur crinière devant le casino des airs. La barmette avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps de ses yeux taillés en amande. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on demande si c'est utile, et puis en tout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre la vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux. Qui sait ce qu'a fait, qui parlait haut, et la bière, on vous la servait. Bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie. On est allé bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présence féminine qu'on veut se payer, qu'on tenait sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer tant et plus. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus. Tombe la pluie et qu'on demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup vivre sa vie.
Radio Libre à Léo Ferré. Yvan Le Bay.
Oui, Léo Ferré, Léo Ferré vivant, eh bien, ça n'interdit pas aux journalistes de sortir, comme on dit, un dossier. Vous savez, il y a un dossier Léo Ferré qui rassemble, au fond, toutes les coupures de presse qui vous ont été consacrées, je dirais, depuis quasiment 1946, depuis que vous êtes passé au bœuf sur le toit. Et alors, dans ces coupures de presse, j'en ai trouvé deux qui sont, à mon sens, très intéressantes. Il y en a d'abord une qui est tirée de Marie-Claire 1956, ça date du mois d'octobre, et c'est signé Louise de Villemorin. Bon, Louise de Villemorin, ce n'est pas seulement les graines Villemorin-Andrieux, c'était aussi la compagne d'André Malraux. Et Louise de Villemorin écrivait « Le piano du pauvre l'a rendu célèbre, Paris Canaille a fait sa fortune, la nuit va le consacrer devant le tout Paris ». Et elle ajoutait « Il est venu dîner avec nous à la maison, Léo, je m'en souviens ». Et j'ai été invité à une émission de la télévision qui s'appelait « La joie de vivre », disait Louise de Villemorin, et on m'avait demandé d'engager des vedettes et des artistes célèbres qui avaient contribué à ma joie de vivre. Et c'est de 1956. Et on avait donné à Madame de Villemorin à choisir entre Yvette Chauviré, Juliette Gréco, Georges Vamparis, un orchestre hongrois, Danny Doberson, Henri Leguet, Marie-Thérèse Fourneau et Léo Ferré. Et elle a choisi Léo Ferré. Vous vous souvenez de ce dîner chez Louise de Villemorin? Et alors, l'article ne dit pas si André Malraux dînait avec vous. Vous
non, dites... parce qu'il il l'a récupéré après.
Ah bon?
Je me souviens un soir, parce que c'est une fille qui était... Elle est dans son monde à elle, mais c'est une fille très intelligente et très sensible, qui aimait mieux bien, quoi. Et un soir, il y avait... le dimanche soir, il y avait... journaliste, tu vois, des matchs, Paris Match, tout ça. Et on mangeait le pot-au-feu. Et je me souviens, quand elle était là, à côté d'elle, il y avait un type, je m'en souviens, parce que ça avait frappé le Robert de Montesquieu. Et puis moi, j'étais à sa droite. Et en face d'elle, il y avait un type qui a fait trembler tout le théâtre pendant des années, qui est actuellement dans l'Académie française. Allez, on saura pourquoi, mais qui s'appelle Jacques Gauthier.
Jean-Jacques Gauthier.
Alors il a sorti un papier, c'est-à-dire un extrait, je ne sais pas comment dire, une coupure de son journal. Il a lu un article dithyrambique sur Louis de Villemorin. J'étais scié, quoi. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, on avait tous des verres, je dis. Elle avait son calice d'or que sa mère lui avait acheté quand elle était petite. Elle buvait dans le calice. Elle a pris. Après qu'il ait dit ça, je n'ai jamais compris pourquoi. Elle a dit, pour moi, une femme est un être en noir, debout, derrière un homme qui mange. Et puis elle a bu.
Alors, deuxième document qui est plus récent, ça, cet article de Marie-Claire de Louise de Villemorin daté d'octobre 56. Le document plus récent, c'est une lettre ouverte que vous avez adressée au journal Le Monde en avril 1981, le 3 avril exactement. C'était une lettre adressée à Monsieur Alain Perfitte, ministre de la Justice, dans laquelle vous disiez bon que vous étiez contre la peine de mort. Ça, on le savait, on s'en doutait, nul ne l'ignore ici. Et dans cette lettre, vous vous étonniez que le président Pompidou, malade, n'ait pas jugé utile de sursoir à l'exécution de Bontemps. Vous en profitiez aussi pour dire que le général de Gaulle lui-même n'avait pas jugé utile de sursoir à l'exécution d'un autre que vous ne nommez pas, mais qui est visiblement Bastien Thiry. Et vous en profitez pour dire à M. Perfitte ceci, le procureur de la République un tel meurt, le ministère public jamais, le juré un tel de tel jugement d'assises meurt, la cour d'assises jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la grave fantaisie d'écrire au ministre dit de la justice, n'en prenez pas ombrage, je n'ai pas d'arrière-pensée, c'est plus facile. Et vous continuez en disant ceci, et c'est du 3 avril 81, c'est-à-dire un mois avant l'élection présidentielle, vous disiez à M. Perfitte, vous allez bientôt céder la place, comme on dit, Monsieur le ministre, parce que c'est l'usage et parce qu'il le faut. Je pense à un sang nouveau, aux artères nouvelles, ou du moins qu'ils paraissent. Vous avez vos artères, vos poumons, vos reins, tout cet arsenal qui paraît inutile aux autres, mais qui vous est bien cher, etc. Et vous lui disiez, partez avec cet arsenal et laisser la place à quelqu'un d'autre. Et la tribune libre va demander tout simplement la libération de Knobelspies, dont vous disiez, Léo Ferré, qu'il était votre ami. Alors, je disais tout à l'heure qu'en 67, vous aviez sorti une chanson qui était « Ils ont voté », on l'a entendu, et qui précédait mai 68. Le 3 avril 81, vous sentiez venir, sinon le remplacement de M. Perfide, du moins l'abolition de la peine de mort et la libération de Knobelspies.
Oui, mais bon, il n'y a pas moi qui pensais qu'il allait se tirer ce mec, quand même. Je parle de Perfide. Enfin, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, quand je dis que les gens, vous avez votre propre sang, vos reins, vos poumons et tout ça, puis, on est tout seul, on meurt tout seul entre les deux. Il faut choisir, si on peut, les faits divers qui remplissent notre vie. Et il est évident que quand on choisit d'être ministre de la justice, on prend des responsabilités, quoi. Il faut le faire. Alors, il faut être très bien, quoi. Non ? Voilà.
Mais vous n'écrivez pas souvent aux journaux, c'est rare.
Ah non, mais j'avais demandé à monsieur... c'était le précédent directeur.
Jacques Fauvet,
s'il voulait bien prendre cette lettre, il m'a immédiatement répondu oui, il n'y a pas de problème. Non, pour le journaux, c'est pas mon métier, je ne suis pas journaliste.
Vous intéressez aux affaires françaises, c'est assez curieux parce qu'au fond, on a l'impression que... Bon, bah, la France, c'est très bien, vous y venez de temps en temps. On vous y aime beaucoup, mais vous préférez vivre près de Sienne, en Italie.
Oui.
Pourquoi ?
C'est depuis 13 ans. Parce que c'est la dernière démocratie. Eh oui. Parce que le pouvoir y est chancelant. Alors le type qui a le pouvoir, il se dit, oui, je peux faire ça, mais si je fais quelque chose, ils vont me balancer, ils sont dans un groupe. Et c'est vrai, il y a eu 43, c'est le 43e.
Alors, oui, mais vous me direz que c'est les mêmes. Hein, quand
c'est toujours les mêmes qui reviennent, d'accord, mais ça je comprends pas, il y a 75 berges qui commandent, vous avez eu le Brejnev, c'était pas possible, quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un type de 40 ans en Russie qui puisse donner le sang nouveau, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors, là-bas, il n'est pas pensable, et ça existe, qu'il y ait un homme. En France, c'est 7 ans. En Amérique, c'est 4 ans. Avec des baisses, n'est-ce pas? Parce qu'au bout de la troisième année, il ne fait plus rien, quoi. Surtout quand c'est cet artiste de cinéma, alors il n'est pas très très intelligent, ce mec. Hein. Bon. Et en Russie, comment un type, en Russie, 270 millions d'habitants, un type qui tient le destin de 270 millions d'hommes entre les mains, ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Et pourtant, ça y est, quoi. Alors, je peux pas supporter ça. En Italie, non.
Oui, mais tous les 10 mois, c'est pas jeune ou vieux, parce que Pertini, quand même, il
est... Oui, Pertini et Fanfani ne sont pas des tout jeunes hommes, hein.
Oui, mais Pertini,
il sert à rien, il est très gentil.
Oui, mais il est mignon, quand même.
Il est mignon, il est gentil. Mais c'est comme le président de la République en France, sur la troisième, quoi. Sur la quatrième. Comment il s'appelait, le type qui a cédé la place de Gaulle, là, qui portait le fauteuil, là.
René Coty.
Mais
la proximité du Vatican et du pape, ça ne vous gêne pas parce que...
Ah, attention, ne parlez pas de ça, hein.
Pourquoi?
Oh, parce qu'en ce moment, je suis en rogne, vous pouvez pas savoir, hein.
Pourquoi avec t'avais ton argent dans les caisses
du Vatican? Tu penses bien que... Je dis que je vais en Italie et je parle aux gens exprès, et puis je m'amuse en disant... Je dis aux gens, alors... Tu sais ça, parce que là-bas, les Italiens ne cachent rien. Hein. C'est partout, à la télévision, partout. Moi, je lis le journal La Repubblica, qui est un journal très bien fait, avec un très bon esprit, et qui n'est pas vendu, qui n'est vendu à personne, n'est-ce pas? Et alors? Parce qu'il y a des journaux vendus, bien sûr. Bon. Et alors? Ce type-là? Parce qu'il y a des journaux vendus, bien sûr. Bon. Et alors? Ce type-là, que je dis aux gens, vous avez vu ça? Le pape... Le fric, vous avez vu, qui va bénir les gens en Argentine, il dit que l'autre, il vend des armes aux Argentins. Vous savez que le pape, il a touché, pour aller en Espagne faire son voyage, 1,2 milliard de pesetas, ce qui fait 7 milliards de francs anciens français, ce qui fait 14 milliards de lire. Je vous l'apprends, vous ne savez pas.
Ouais.
En Espagne, ils le savent. Ils l'ont fait quand même. Vous comprenez? Et alors ça, je trouve ça, ça n'est pas possible. Je leur dis ça, ils me disent, ah, ils ne savent pas.
Vive l'Italie. On a entendu une intervention de Daniel Cohn-Bendit. Il y a des auditeurs et des auditrices qui nous téléphonent beaucoup pour nous dire pour nous dire, il y a une dame qui nous dit, j'arrive pas à comprendre la rencontre Daniel Cohn-Bendit et Léo Ferré. Et elle ajoute, Daniel, écoute ça, j'aime beaucoup Léo Ferré, je ne vois pas la relation entre les deux.
Daniel, c'est pas grave. Ça viendra.
Ouais,
je suis plus jeune, c'est tout.
Ah, c'est monsieur Michel Nicolem de Massy-le-Neuf qui nous dit ça. Et puis, une inconditionnelle de Léo Ferré qui nous recommande de ne pas oublier que Léo Ferré, c'est aussi, ce sont aussi les amoureux du Havre. Ça, c'est vrai, c'est une belle chanson, hein, de 1951-52.
Oui.
Bien. La vie moderne et Canne la Braguette, et cette femme ajoute, Canne la Braguette ne passe jamais à la radio. Alors on va demander là à notre réalisateur de se précipiter à la discothèque et d'aller chercher Canne la Braguette pour prouver à madame Jacqueline Novard de Calais qu'on va passer Canne la Braguette. En attendant, Léo, bon, la solitude, vous l'avez chantée, vous la vivez, vous l'avez vécue plusieurs fois. Quelquefois à deux, vous la vivez encore. On ne sait pas d'ailleurs si... Vous aimez la société ou pas?
Mais la société, quand je suis à Paris, je m'arrête au feu rouge.
Bon. La solitude.